Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos.
Qui nous touchent.
Qui nous concernent.
Qui nous ressemblent.
Qui nous parlent.
Qui nous donnent de la force.
Qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Bonjour, nous sommes le vendredi 1er novembre 2024, il est midi passé de plus ou moins 31 minutes. Vous êtes sur Radio Galère 88.4 FM à Marseille, Radio Ayoli en DAB+, en Avignon, et sur radiogalère.org, partout ailleurs. Ouais, les infos semblent encore plus terribles que d'habitude en ce moment, avec le génocide en cours à Gaza, la guerre qui s'étend au Liban, en Iran, avec un gouvernement en France encore pire que tout ce qu'on a eu jusqu'ici, avec un Darmanin remplacé par un Retailleau. Bref, au milieu de tout ça, plein d'infos passent inaperçues, comme nous le fait justement remarquer une ancienne camarade des infos choisies, dont on rediffuse aujourd'hui le billet. C'était lundi 21 octobre dans une émission Adelphes des infos choisies qui s'appelle Tout pour le goûter. C'est une émission mensuelle d'actu politique faite par une bande de transpédéguines tous les troisièmes lundis du mois à 18h sur Radio Saint-Ferréol.
Vous écoutez bien Tout pour le goûter, des TPG qui font de l'info sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Il est 13h12, passé de 5h12.
J'aurais adoré faire un montage avec différentes voix. Sauf que voilà, le problème c'est que mon premier bout à bout, il faisait 52 minutes. Et que j'avais vraiment pas envie de choisir. Alors j'ai écrit pour résumer et raconter. Pour parler des guerres coloniales actuelles. Pour parler de ce qui se passe ici, maintenant, sur les territoires, les départements, régions d'outre-mer. Faire entendre les voix de celles qui dénoncent. C'est ça que j'aurais aimé faire. À part ça, je suis un peu sidérée du silence ou du presque silence dans les grands médias, dans les espaces militants, et y compris chez les féministes. Du grand silence face à ce qui se passe en Martinique depuis plus de 3 mois. Alors oui, comme me disait un camarade jeudi soir, la semaine dernière, il y a pire ou plus important, ou peut-être qu'en fait, comme c'est plus grave ailleurs. Il prenait comme exemple le génocide en cours à Gaza, la médiatisation massive de l'affaire Pellico, dit le procès de Mazan, ou la guerre qui éclate au Liban. Ou quand on revient ici, et qu'on parle de la France hexagonale, les coupes budgétaires, ou encore la situation des mineurs qui sont censés être protégés et qui ne le sont pas. On se disait aussi que peut-être que si on ne parlait pas de la Martinique, c'est juste parce que les Martiniquais et les Martiniquaises étaient noirs. Et on sait que ça, ça compte. Mettre des vies en dessous d'autres et hiérarchiser les luttes par rapport à ça. Alors moi, j'avais le grand désir de mettre en perspective les guerres coloniales. Faire le lien, en pointant tout ce que l'impérialisme et la colonisation permet de manière générale. Ce que ça fait de voir un génocide en cours en direct live et qu'en fait, bah finalement, ça ne change pas grand-chose à nos quotidiens. On a déjà entendu, encore récemment, post-94 au Rwanda, ça n'arrivera plus. La France, à l'époque, et la Belgique, y était d'ailleurs bien pour quelque chose dans la tuerie massive des Tutsis. Bon, revenons à aujourd'hui. Ouais, voilà, je voulais aborder la situation géopolitique de la Martinique, parce qu'en fait, ce n'est pas rien ce qui se passe. J'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer. La Martinique, c'est un département d'outre-mer régi par l'article 73 de la Constitution dit « identité législative », comme la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, pour cet article. D'ailleurs, depuis mai, les Mahorais et les Mahoraises accèdent difficilement à l'eau potable. On n'a qu'à le dire, vu qu'on n'en parle pas beaucoup de ça non plus. Et se débattent avec l'épidémie du choléra. Voilà. En début d'été, du côté de la Martinique, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes appelle à se mobiliser massivement pour que la grande distribution et les industriels alignent les prix comme pour l'Hexagone. IEL ont donné 2 mois pour agir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Martinique, tout coûte 40% plus cher qu'ici en métropole. Et aussi, IEL dénonce les relents colonialistes. Depuis, il y a eu de nombreuses manifs, des appels à la grève, et en fait, pas grand-chose n'a changé par rapport à leurs revendications. Mais, mi-septembre, la répression s'est faite encore un peu plus forte. De plus en plus de couvre-feu en fonction des territoires. Et en fait, c'est assez mathématique. Plus les gens sont vénères et en colère, plus le couvre-feu se resserre. Les gens doivent rester chez eux à partir de la fin d'après-midi plutôt que 21h et ne sortent pas le week-end, par exemple. Et bien sûr, ce que la métropole fait, c'est qu'elle envoie des flics et des militaires pour bien maintenir l'ordre. Alors, depuis le début de ce mouvement, début juillet, on se souvient de ce qui se passait. Début juillet, nous étions entre 2 tours après cette dissolution organisée par Macron. Et bben, depuis début juillet, il y a 8 personnes qui sont fait buter par la police. Et ça non plus, on n'en parle pas trop. En 2009, il y avait déjà eu une grève générale de 40 jours. Les négociations s'étaient faites en 8 clos. Cette fois, ce parti-là a décidé que ça soit public, filmé et médiatisé, 15 ans plus tard. Eh bien, 15 ans plus tard, ce parti quitte 2 fois de suite les tables rondes de négociation parce qu'ils ont l'impression qu'on se fout de leur gueule. D'ailleurs, on le voit sur les vidéos, on les moque ouvertement. Il y a eu un appel à grève générale le 26 septembre 2024 qui a beaucoup pris, mais ça n'a toujours pas fait bouger les choses. La dernière journée de mobilisation a eu lieu ce samedi 19 octobre. Mais alors, que nous révèle ce mouvement massif, cette révolte qui dure depuis presque 4 mois? Juste en quelques points. Le ministère des Outre-mer, autrefois ministère des colonies, jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps, c'est un ministère où on a eu le droit au discours, vous vous souvenez, il y a quelques temps, des bienfaits des colonies. Pour exemple, en 2 ans et demi, il y a eu 5 ministres différents. Un imaginaire que l'Outre-mer ne doit pas coûter. En fait, il faudrait que des territoires soient encore colonisés par la métropole, mais que ça ne coûte pas beaucoup d'argent. C'est facile d'aller voir sur les plateformes et d'aller écouter, par exemple, Claudie Sarr, qui est journaliste et musicien martiniquais et qui en parle parfaitement. Le deuxième point, c'est que les Martiniquais et les Martiniquaises ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en priorité. Parce que ce qui se passe, c'est que les grandes enseignes, les industries, tenues par des béquets, donc il faut donner une petite définition de ce qui est appelé un béquet, ce sont des personnes blancs et blanches descendantes de colons. Et IEL représente 1% de la population, sauf que IEL représente les plus grandes richesses de la Martinique. Et dans ce qui est dit dans les différentes interviews, c'est que en gros, pour se nourrir, les enfants de colons sont en lien direct avec les colonisateurs.
Petit rectificatif après coup, entre parenthèses, on reprend. Il y a 1% de béquets. Les béquets, ce sont des blancs descendants de colons, celles et ceux qui détiennent les richesses, les industries, la grande distribution, etc. Et encore et toujours aujourd'hui, il y a cette relation entre colonisés et colons. Quand les descendantes de colonisés font leurs courses, doivent se nourrir, ils et elles doivent forcément être en lien avec les colons, les béquets.
Il y a un autre point qui est dénoncé, c'est que le chlordécone, le scandale qui a été mis sous le tapis, eh ben, il ressort à ce moment-là. Parce que dans la négociation, on demande et il y a la revendication que ce fléau sanitaire qui a donné bon nombre de cancers de la prostate soit reconnu encore et que l'État revienne sur le non-lieu. Et puis, le dernier point, c'est que les Martiniquais et les Martiniquaises en révolte veulent un lien direct avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un tas de ponts qui sont faits où il y a des militants kanaks et des militants martiniquais qui se retrouvent par différents moyens en ligne sur les réseaux sociaux pour organiser collectivement une lutte et pour les médiatiser. La grande question, en tout cas de Aude Goussard, qui est une des têtes du mouvement, c'est pourquoi est-ce que ces populations françaises, les Kanaks par exemple et les Martiniquais, sont toujours relégués n'importe comment, au dernier rang, comme si c'était des citoyens qui ne comptaient et qui ne comptaient plus. Elle dénonce, elle et eux, parce qu'ils sont pleins, les moqueries, comme je disais tout à l'heure, les moqueries envers les Martiniquais. Macron qui se fout ouvertement de leur gueule et aussi les délégations qui défilent depuis un mois. Leur demande, pour nous, les métropolitains et les métropolitaines, c'est d'en parler, soutenir et visibiliser.
Eh, c'est les infos choisies.
J'ai tout cassé, ouais ouais. Peut-être que je retrouverai l'envie. Tout cassé, ouais ouais. Une bonne raison de sortir du lit.
Partons maintenant en Guadeloupe, une île privée d'électricité depuis plusieurs heures. Ce sont des salariés grévistes d'EDF qui ont arrêté les moteurs de la principale centrale de l'archipel. 380 000 habitants sont donc concernés. Explication Lise Cloy et Elsa Salit.
Dans la cuisine d'Ivan, plus rien ne fonctionne.
Ça, c'était sur TF1 vendredi dernier, le 25 octobre. On y parlait d'une action coup de poing des grévistes chez EDF, qui se sont introduits dans la centrale principale de la Guadeloupe et ont interrompu la production d'électricité pendant plus de 24 heures. Le reportage de TF1, c'est évidemment à grand renfort de témoignages de blancs qui ne peuvent plus garder les courses au frais dans leur frigo, parce qu'il n'y a plus d'élec, et de commerçants béqués qui perdent de l'argent à cause des coupures d'électricité. À aucun moment, la parole n'est accordée aux grévistes. Sur France Info, c'est à la directrice d'EDF Guadeloupe qu'on donne largement la parole.
Info. L'alimentation est progressivement revenue dans l'archipel dans la nuit de vendredi à samedi. Un événement exceptionnel que dénonce avec sévérité la directrice d'EDF Guadeloupe, Marilyn Bassette.
Moi, je trouve que c'est tout à fait irresponsable de priver toute la Guadeloupe d'électricité pour des revendications alors qu'il y a les moyens pour gérer ce genre de situation. Il y a des organismes statutaires pour gérer les situations des employés. Il y a d'autres recours. Et si certaines personnes ont des doutes, il y a les juges, il y a les tribunaux. Vous voyez, j'en perds mes mots, tellement je trouve ça scandaleux. Aujourd'hui, on a vraiment des moyens pour pouvoir résoudre des problèmes sociaux internes. Priver toute la Guadeloupe de cette manière-là de l'électricité, c'est une position tout à fait irresponsable.
Il faut savoir qu'un mouvement social dure depuis le 15 septembre chez EDF en Guadeloupe. Et ces mêmes salariés avaient déjà fait 2 mois de grève en 2022, qui avait abouti à un accord signé début 2023. Et en fait, c'est l'application de cet accord qui, elle, demande notamment la mise en conformité de leur contrat et de leur rémunération avec le droit du travail, dont 5 ans d'arriéré de salaire non versé. Alors, vous signez un accord en 2023 et fin 2024, il n'est toujours pas appliqué ? Et vous dites à vos salariés d'aller se faire voir dans les tribunaux. Mais c'est qui les irresponsables là-dedans, Madame Bassette ?
Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord...
Les infos choisies, vendredi, 12h30.
En Martinique, le mouvement continue, mais le couvre-feu aussi, instauré dans encore 5 communes jusqu'au lundi 4 novembre. Alors il y a eu une grosse manifestation vendredi dernier, le 25 octobre, mais c'est difficile, j'ai un peu galéré à trouver des infos plus fraîches, à part que la nuit du 30 au 31 octobre a été calme, sans incident, sous couvre-feu. Bon alors, on va se donner la pêche avec un petit clip qui a des hashtags Martinique, actualité, justice, publié par Ma Touche d'Amour, qui se filme en chantant au volant de sa voiture.
Mais en vérité, nous toujours à travailler pour nous. 1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre libéré. Parité café, parité coton encore. Mais en vérité, nous toujours à travailler pour nous. Yo tiré chenon pour nous pas babiller. Yo tiré chenon pour nous pas vous péter. Yo tire chenon, pour yo verbier le monde. Mais en vérité, nous toujours qu'à travailler pour yo. L'école, pour apprendre nous parler français. Nous pas illettrés, et c'est un yo aimé nous.
Ils ont enlevé les chaînes pour qu'on ne se plaigne pas. Ils ont enlevé les chaînes pour qu'on proteste pas. Ils ont enlevé les chaînes pour laver leur image aux yeux du monde. Mais en vérité, rien n'a changé. On travaille encore pour eux. 1848, l'esclavage fini. Sous la subliminale dictature, les nègres sont libérés. Il n'y a plus ni café, ni coton. Mais en vérité, rien n'a changé. On travaille encore pour eux. Ils nous ont mis à l'école pour nous apprendre à parler français. Pour faire genre, ils nous instruisent par amour. Pour ne pas que nous soyons des illettrés. Pour ce faire, ils nous ont enseigné, nos ancêtres les Gaulois, pour défendre leurs propres intérêts.
Ou pâti ou volé, ou couru, mon chèche, mon page retrouvé. Allez là, mon commandé, qu'à qui passe.
Quand sirène la sonné, mon commandé, qu'à qui passe. Mon commandé, qu'à qui passe. Quand sirène la sonné, mon commandé, qu'à qui passe.
Thank you.
vient d'écouter Celia Wa avec son titre Hola, qui vient de sortir sur son nouvel album le 16 octobre. On passe à un petit point d'info locale concernant l'accès aux droits.
Alors bonjour, je m'appelle Laurence Udry, je suis chef de pôle régional du Défenseur des droits. L'idée, c'est de rassembler les équipes du Défenseur des droits, que ce soit des équipes de juristes et de délégués du territoire, pour accueillir les gens et pour pouvoir les conseiller sur l'accès aux droits, sur toutes les missions en fait, du Défenseur des droits. Donc on est compétent pour agir dès lors qu'il y a des problèmes entre la relation entre les usagers et tout type d'administration. Donc ça peut être aussi bien des problèmes avec la mairie que rencontrent les personnes, des problèmes avec la préfecture, des problèmes avec les organismes sociaux. Donc voilà, on est compétent pour toutes ces problématiques. On est également compétent, les gens peuvent venir nous voir pour les droits de l'enfant et sur la lutte contre les discriminations. Donc voilà, les personnes qui souhaitent par ailleurs soit prendre rendez-vous et aller avoir un délégué, ils peuvent retrouver nos coordonnées sur le site internet du Défenseur des droits. Et puis sinon, ils peuvent nous saisir directement, soit par courrier. L'intérêt de nous saisir aussi par courrier, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'affranchir la lettre et ils peuvent nous envoyer une lettre avec les pièces nécessaires et ça arrivera toujours au Défenseur des droits. On avait aussi travaillé avec QX1, pour avoir des petites présentations de capsules du défenseur dans plusieurs langues. Donc on peut aussi avoir cet outil-là sur le stand. Alors il y a aussi un point qu'il est important de souligner, c'est que ce soit le passage sur le stand ou que ce soit également le recours au défenseur des droits en général, c'est un service qui est gratuit. Donc on accompagne les gens, que ce soit sur la résolution amiable de leur situation ou quand ça c'est un peu plus compliqué et que ça demande de mobiliser nos pouvoirs d'instruction. Et il y a un réseau de 12 délégués sur Marseille, donc qui se répartissent sur les arrondissements marseillais. Et on a actuellement 16 lieux de permanence et il va y en avoir deux de plus d'ici quelques semaines. Donc dont une nouvelle permanence au bureau de municipal de proximité de Désiré Clary.
Les infos choisies. Aujourd'hui, midi et demi, comme tous les vendredis. Les infos choisies. Aujourd'hui, midi et demi, comme tous les vendredis.
Les infos choisies.
Ce soir, vendredi 1er novembre à 19h à la Dar, rue d'Aubagne. Discussion sur l'anarchisme en Iran et en Afghanistan avec Nader Teif du groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste.
Et un autre événement qui va avoir lieu vendredi et samedi de la France-Afrique à l'exil. Alors tout d'abord, vendredi, on a un concert de soutien au collectif Binkandi à La Merveilleuse à 20h au 18 place Notre-Dame-du-Mont. Et samedi 2 novembre de 16h à 18h, ce sera à La Sabia au 64 cours Julien. Et alors, là, ça parlera du coup de la France-Afrique, réflexion sur le maintien de la domination française en Afrique, source des déstabilisations politiques et économiques et raisons d'exil. On aura le collectif Bikandi, jeunes exilés de Marseille, avec des jeunes qui subissent la France-Afrique, qui viendront nous parler des luttes qui se construisent ici à Marseille. On aura aussi des personnes du collectif Afrique-Europe Interact, Ras-le-bol Congo, et évidemment le collectif Bikandi. Samedi 2 novembre, gros programme, c'est la journée nationale contre l'habitat indigne. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on approche le triste anniversaire des effondrements de la rue d'Aubagne. Ça, c'était le 5 novembre 2018. Et la semaine prochaine, le 7 novembre, c'est l'ouverture du procès, 6 ans après, qui va se tenir jusqu'en décembre. En attendant, il y a plusieurs rendez-vous à venir. Donc, on commence samedi. Il y a 54 organisations marseillaises qui appellent à cette première journée nationale contre l'habitat indigne. Ça va se tenir au local de Solidaire, 29 boulevard Longchamp, au CMA Sénac, rue Sénac, et à la Casa Consola, en rue Consola. Vous pouvez trouver tout le programme sur le collectif 5novembre.org. Il y aura deux tables rondes, des ateliers, des moments conviviaux, et ce sera l'occasion de tirer un bilan des luttes passées, de se former et de réfléchir ensemble aux futurs combats à mener partout en France, aux côtés d'intervenants et intervenantes venus de toute la France et même des USA. Et l'idée, c'est que 6 ans après les mobilisations historiques qui ont suivi les effondrements de la rue d'Aubagne, On veut créer un espace commun entre habitants, habitantes, associations, collectifs, syndicats et chercheuses pour échanger nos expériences, pratiques de lutte et solutions pour un logement digne.
Encore demain, samedi 2 novembre à 14h, sous l'ombrière du Vieux-Port, rassemblement en soutien au peuple libanais.
À Aix-en-Provence à 14h, toujours samedi, au Café culturel citoyen, le 23 boulevard Carnot. Pourquoi l'extrême droite gagne-t-elle du terrain? Idéologie, stratégie, électorat, oligarchie, projection de documentaires et discussion.
Toujours demain, samedi 2 novembre, à 17h30, à la librairie Transit, boulevard de la Libération à Marseille, présentation de Barbès Blues, une histoire populaire de l'immigration maghrébine, avec Hajer Ben Boubaker, en collaboration avec Approche Culture et Territoire. En déambulant dans Barbès, Hajer Ben Boubaker raconte les petits détails et les grands événements qui ont fait du quartier la maison mère des luttes de l'immigration et l'une des places fortes de la musique maghrébine.
On passe au dimanche 3 novembre, à 13h, c'est le deuxième rendez-vous par rapport à l'habitat indigne, c'est la marche nationale pour la justice et le logement digne. Départ métro de Notre-Dame-du-Mont, le trajet va passer par le palais de justice, va aller jusqu'au palais de justice, en passant par la rue d'Aubagne.
Mardi 5 novembre à 8h30, hommage aux victimes des effondrements, place du 5 novembre, rue d'Aubagne à Marseille.
Jeudi 7 novembre, on avance un petit peu dans la semaine, à 19h à la librairie Transit, toujours au 51 boulevard de la Libération, présentation du bouquin de « L'histoire dira si le sang des morts demeure vivant » de Amin Mokadem, qui revient sur l'assassinat de deux dirigeants indépendantistes kanak. Jean-Marie Tchibaou et Yeywen Yeywen, le 4 mai 1989, alors qu'ils participent aux commémorations de la prise d'otage d'Ouvéa, qui avait eu lieu un an auparavant.
Vendredi 8 novembre à 14h, chez ACT, 39 rue Paradis, dans le 1er à Marseille, il y a une rencontre « Résister en féministe ». À l'occasion de la sortie du numéro spécial de la déferlante « Résister en féministe », Approche Culture et Territoire propose une discussion avec Lucie Geoffroy, journaliste indépendante et cofondatrice de la revue La Déferlante, et Mathilde Bléza, journaliste indépendante et autrice, membre de la revue Z depuis 2012, cofondatrice de la revue Panthère Première et co-autrice de l'ouvrage « Notre corps, nous-mêmes ». Il y aurait des modalités pratiques, il faut s'inscrire par mail, envoyer un mail à direction au singulier @approche.fr.
Et dans une date un peu plus lointaine, le week-end prochain, c'est le festival Le Nuage était sous nos pieds. Ça va s'étaler du 8 au 10 novembre. C'est 3 jours d'échanges, des projections et balades conférencées à Marseille pour s'informer, s'organiser collectivement et lutter contre l'accaparement de nos territoires et de nos vies par les infrastructures du numérique. Donc ce festival, c'est à l'initiative du collectif marseillais Le Nuage était sous nos pieds, qui est composé de 3 entités. Le collectif des Gamards, le collectif d'éducation populaire sur les enjeux de l'eau, ensuite il y a Technopolis qui analyse et lutte contre les technologies de surveillance, et enfin la Quadrature du Net, qui défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. Depuis 2023, le collectif enquête, analyse et lutte contre les impacts sociaux, écologiques et politiques des infrastructures du numérique dominant et de leur monde. L'occasion de se renseigner sur ce qui se passe à Marseille, notamment avec les data centers. Il y aura tout le programme sur la quadrature du net. Voilà, enfin, laquadrature.net. Ciao, à la semaine prochaine!
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.